Cours de philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe, le 17 octobre l'an 2000 à Saint-Jodard.
Il faut voir avec beaucoup de netteté comment on passe de la recherche de la substance à la recherche de l'acte. On peut dire, Aristote l'a fait, faisons-la. C'est pas si mal, hein. Parce que on a un très bon guide de montagne avec Aristote. Il a monté assez haut, puisque saint Thomas reconnaît que c'est lui qui a monté le plus haut. Je ne crois pas que depuis saint Thomas, on ait monté beaucoup, du point de vue de l'intelligence. Il faut regarder, vous voyez, les monts Everest, au point de vue de l'intelligence. Il n'y en a pas beaucoup, vous savez. Il y a des quantités de petites montagnes, mais les montagnes de vaches, n'est-ce pas ça, ça se rencontre énormément, là. Beaucoup de monde, beaucoup de gens restent toute leur vie gardiens des vaches, au point de vue intellectuel, vous voyez. C'est pas si mal, c'est déjà quelque chose. Mais monter le plus haut qu'on peut dans la recherche de la vérité, ça c'est. Et il est évident que le livre Theta de la métaphysique, c'est le sommet. C'est le sommet parce que la découverte de Dieu après, c'est une conséquence de ce livre Theta. Si je n'ai pas ce levier de commande, je ne peux pas. Dieu n'est pas dans la substance. Spinoza l'a cherché dans la substance, mais il a fait erreur. Et c'est très intéressant de voir que Spinoza a cherché Dieu dans la substance. Il n'y a qu'une seule substance, c'est Dieu. Et si Dieu était la substance, Spinoza ne serait pas. Parce que la substance, elle se gargarise elle-même, n'est-ce pas ? En restant en immanence, on n'en sort pas. Et on ne peut pas en sortir. Or, l'acte créateur de Dieu est quelque chose d'inouï. Que Dieu crée, c'est invraisemblable, ça. Et autour de ça, tous les philosophes ont tourné. Ils ont voulu que Dieu crée nécessairement. C'est toujours la même chose. Parce que si Dieu est substance, il ne peut que créer nécessairement. Donc, il y a une recherche très, très difficile, extrêmement importante, qui, pour nous, est la plus difficile. La scolastique, qui pourtant dépendait saint Thomas, la scolastique thomiste, n'a plus cherché l'acte. C'est extrêmement curieux. Je vous dis, pour bien vous montrer que ce n'est pas mon point de vue, regardez tout simplement ce petit livre, il est pas gros, du père Gardeil, où il montre la métaphysique chez saint Thomas. C'est fait avec une très bonne volonté, merveilleuse, mais voyez, tout se ramène à la substance, le sujet. Et qu'au fond, l'acte n'est pas vu. L'acte, cette recherche, c'est la recherche de la finalité dans l'être. Alors, évidemment, je peux me poser la question, la finalité, je l'ai vue pour l'activité artistique, je la vois pour l'activité d'amitié, de grandes expériences, c'est sûr. Mais est-elle dans l'être ? Est-ce que l'être n'est pas absolument simple et uniquement la vision de l'être par les prédicaments, les 9 prédicaments ou les 10 prédicaments, si vous dites substance dedans, tout ce qui est attribué à l'être, pas la cause, il est attribué de multiples manières et on s'en tient à ça. Et la plupart des thomistes qui devraient vraiment être ceux qui comprennent saint Thomas et qui le font aimer, oublient le livre d'état d'Aristote. Et c'est pas commode, c'est un livre difficile. Que les plus avancés mettent leur nez dans le livre d'état de métaphysique d'Aristote. Parce que c'est très important. Alors, quand on a découvert la substance, on dit, mais la substance, on a l'être. Ce qui est premier dans l'ordre de l'être, dans l'être comme tel, c'est la substance, cause formelle. Cause formelle de la substance, ce principe premier dans l'être, en tant qu'être. Peut-on sortir de ça ? L'être, il est. Il n'a pas besoin d'autre chose. Oui. Alors, je sais très bien, je veux très bien me dire, mais oui, mais il y a une recherche quand même de la finalité dans l'activité artistique, dans l'activité de l'amour, d'amitié. J'ai une finalité et c'est quelque chose. Là. L'ami, c'est l'homme le plus parfait par rapport à son ami. C'est un homme qui sait la faiblesse de l'homme et qui la complète avec son ami. Comme ça, ils seront deux, et ils seront beaucoup plus forts. Mais l'être, c'est pas l'ami. L'être, c'est pas la réalisation matérielle. Alors, il y a une question très importante. Comment se poser cette question ? En vue de quoi l'être ? En vue de quoi ? En vue de quoi l'ami ? L'ami ? En vue de quoi l'artiste ? L'œuvre d'art ? En vue de quoi ? Alors vous pouvez rester longtemps devant cette question, des heures, ne restez pas trop longtemps, mais reposez-vous cette question souvent. En vue de quoi l'être ? Alors peut-être qu'un jour, il y aura une étincelle. Il y a un passage très important. Alors, nous devons essayer de le voir. Comment se fait ce passage ? Aristote, lui, commence ce livre d'état. Mais on va laisser ça de côté. Mais on signale. Il commence en face de Platon. Platon a-t-il vu la finalité de l'être ? Non. Parce que Platon ne s'est pas posé la question de la finalité comme Aristote. Pour lui, la finalité, c'est très lié à la cause exemplaire. C'est la forme. C'est la beauté. Pour un grec, beauté et bonté, kalos, kakaton, le beau et le bien, c'est très lié. Et chez Platon, le bien et le beau sont très liés. Et chez Aristote, aussi, d'une certaine manière, en morale. Et c'est pas commode, hein, de distinguer, je dis pas séparer, distinguer le beau et le bien. Et par le fait même, Platon place au-dessus de tout, au-dessus de l'être, Platon place la puissance, dynamis. Platon fait la même chose. Dynamis, c'est ce qu'il y a de plus grand, de plus puissant, c'est le cas de le dire. Ce qu'il y a de plus puissant. Alors, est-ce que la puissance peut être le sommet de l'être ? Ce qui est le plus parfait. Voyez, quand je regarde Dieu, il y a toujours une tentation de regarder la toute-puissance de Dieu comme ce qui est le plus grand. Et c'est vrai, c'est le premier attribut que je vois dans l'Écriture sur Dieu, dans la Genèse. Dieu créa le ciel et la terre. C'est la toute-puissance de Dieu. Créer le ciel et la terre, c'est pas mal, hein. C'est difficile de voir plus que ça. Dieu crée le ciel et la terre. Dieu créa. C'est par la création que la toute-puissance de Dieu se manifeste. Et je reste très facilement là-dessus. Beaucoup de chrétiens restent sur la toute-puissance. Les Gaulois restaient sur la toute-puissance, ils n'avaient que peur que le ciel tombe dessus, sur la tête, sur leur tête, la toute-puissance. Oui, saint Thomas, dans la Somme, ne met pas la toute-puissance, la simplicité. Et réfléchissez là-dessus. Très facilement, nous mettons la toute-puissance. Alors, ce que fait Aristote, au début, c'est de montrer que la puissance ne peut pas être première. Elle est toujours seconde. Et par le fait même, elle n'est pas ultime. La puissance, elle est toujours au regard de l'impuissance, celui qui dépend. La toute-puissance, c'est un dominium en quelque sorte, un pouvoir. Et donc, il est relatif à autre chose. Oui, quand je considère la création comme nécessaire, c'est parce que je n'ai pas dépassé la toute-puissance. Alors, la toute-puissance, elle se manifeste par la création, par l'action, se manifestant par l'action, elle existe. Manifestation et réalité se tiennent. Alors, la création est légère. Si Dieu ne créait pas, il ne serait pas tout-puissant. Pour qu'il soit tout-puissant, il doit créer. Et cette toute-puissance manifeste ce qu'il est. Alors, la toute-puissance et la puissance est relative à l'action. Donc, n'est pas quelque chose de premier. Quand je déclare que je suis tout puissant et que je ne fais rien, on dira, mais c'est pas normal. Si vous êtes tout puissant, vous faites quelque chose. Vous actuez, vous faites quelque chose en faisant quelque chose. Et la toute puissance reste au point de vue de l'être. Comme impossible, comme le possible. Il y a un lien entre la puissance et le possible, au point de vue métaphysique. Or, le possible n'est pas premier. Il attend d'être actué. Je laisse tomber ça. Je prends tout de suite l'expérience et la réflexion sur l'expérience. Et c'est cette réflexion sur l'expérience qui va obliger mon intelligence de faire cette induction qu'Aristote nomme une induction analogique, synthétique, analogique. Donc, c'est l'induction la plus parfaite de passer de réalité possible qui demande de s'actuer à la distinction métaphysique de l'être en acte et en puissance. Et ce que nous allons essayer de voir, c'est comprendre que cette induction, je dis bien une induction, hein, l'induction aristotélicienne, c'est le passage de l'expérience au principe. De l'expérience à la cause. Je vois du feu, et je me dis, il doit y avoir une source. Je vois de la fumée, je me dis, il doit y avoir une source, le feu. En été, quand on est en face d'une grande plaine, et qu'on voit un gros nuage s'élever dans l'air, qui s'élève, on dit, il y a un feu, vite, allons, au secours. C'est une induction que vous faites ça. Alors l'induction d'Aristote a été très abîmée par l'induction de Bacon, l'induction baconienne. Et qui, d'une certaine manière, n'a plus vu l'induction. C'est beaucoup plus par le suffrage universel. Le suffrage universel n'est pas une induction. C'est quantitatif. L'induction est qualitative. Je passe de l'expérience au principe. Je saisis dans l'expérience ce qui est premier. Et là, je découvre quelque chose de capital, être en acte. Alors, je vois toutes les expériences donc je peux me servir pour cette induction. Toute induction porte sur l'expérience et la complexité de l'expérience me montre progressivement qu'une interrogation va naître. Se poser la véritable interrogation en vue de quoi l'être ? Qu'est-ce qui, dans l'être, est premier, non plus selon la causalité formelle, mais selon la finalité. Ce qui est premier, au-dessus de tout, ce qui est plus même que la substance. Premier du premier, en quelque sorte. Parmi les différentes modalités de l'être, il y a la passion et l'action. Oui, c'est vrai. je pâtis, c'est une manière d'être. Je subis quelque chose qui est plus puissant que moi, et je pâtis. Je pâtis dans mon être. Je suis obligé d'accepter cette violence. Je pâtis. Vous avez tous expérience de pâtir, hein, je crois. Quand vous avez mal aux dents, hein, vous voudriez enlever ce qui vous fait mal et vous n'y arrivez pas. Il y a l'action et la passion comme modalité de l'être que je ne peux absolument pas nier. J'ai à côté de moi un voisin qui est plus gros que moi. Il prend plus de place que moi. Ben, je pâtis. En avion, ça se fait couramment, c'est pas. Alors, vous le subissez, vous le taisez, évidemment. Mais on a envie de dire autour de moi. Vous pâtissez. Elle fait accent pâtir. Subir une situation. La petite Thérèse avait pâti devant sa sœur à cause d'elle qui faisait toujours du bruit avec son chapelet. Parce qu'elle avait l'ouïe très fine, alors ça la chagrinait. Elle serait devenue sourde, elle n'aurait plus entendu, ça c'est très bien. Mais non, quand on a l'ouïe très fin, ben, d'avoir un voisin ou une voisine qui fait tout le temps du bruit, qui s'agite tout le temps, c'est fatigant. Action et passion. Chacun d'entre nous, nous pâtissons pour des choses différentes. Si vous demandez à un novice, où est-ce qu'il a le plus pâti? Est-ce que c'est à cause de son père maître ou à cause de son voisin? Très souvent, c'est à cause de son voisin. Ce n'est pas à cause du père maître. Il est suffisamment loin. Alors on ne pâtit pas. Tandis que celui qui est tout proche et que je ne peux pas déloger, je pâtis. C'est vrai. S'il est loin, je m'approche de lui de temps en temps, mais seulement de temps en temps. Je serai limité. Alors je ne pâtis pas. Je serai vite délivré. La théologie de la libération, c'est ça, la théologie de la libération. Parce qu'on pâtit. Et on ne voit pas le moyen autrement que de faire une révolution. Il y a ces deux modalités de l'être, passion et action. Il y en a un qui est actif, action, et l'autre qui est passif. Deux états particuliers. Je suis toujours pour quelqu'un d'autre actif et pour un autre passif. C'est très bien ça. Dans toute communauté, c'est comme ça. Et c'est bon de le savoir. Hein. Je suis peut-être, sans tout le savoir, mais pour mon voisin, pour ma voisine, je suis celui qui l'oblige de pâtir à cause de moi. J'en peux rien, je suis comme ça. Action et passion. Deux catégories de l'être relatif à la substance, relatif à ce que je suis. C'est quand même quelque chose de très particulier, ça. Et ça, je le constate. Je ne peux pas nier ça. C'est deux états spéciaux. Vous voyez ? Et quand vous êtes toujours à côté du même, et que celui-là est pour vous source d'être dans un état passif, pas commode, vous devenez révolutionnaire. Vous voyez ? En disant, seule une révolution pourra faire que celui qui me fait souffrir comme ça, sans le savoir, du moins,
sans le montrer. Il me fait souffrir. Il n'y a qu'un tiers qui le sait. Ça, au point de vue de l'être, c'est très net. Deux états. Au point de vue philosophie du vivant. Oui, je regarde toute la fiction, tout. Au point de vue philosophie du vivant, je suis capable de voir et je vois. Le petit enfant, à sa naissance, ne voit pas. Et puis, petit à petit, il voit. Il ouvre ses yeux, il voit. Et je reste toujours dans cet état-là. Quand je m'endors, je m'endors. Et je me réveille. J'ouvre mes yeux. Je vois. Toute ma vie, je suis capable de fermer mes yeux. En fermant mes yeux, je ne dis pas « je ne vois plus ». Non. Je n'exerce plus un autre état qu'est la vision. Quelle différence y a-t-il entre ces deux états ? Capable de voir. J'ai l'expérience de ça. J'ai l'expérience de ma capacité de voir quand je passe devant un opticien. Il me fait voir, il voit ma capacité de vision. Je peux la mesurer. Puis je vois que ma capacité de vision, elle diminue. Et le vieux Jacob, qui voit sa vision diminuer. Avant, il voyait le clocher, surtout Jacob, et puis le voit un peu plus loin. Avant, on voyait à distance tout de suite, on reconnaissait, on ne reconnaît plus. Le champ de vision diminue, ou le champ de vision augmente. On vous fourre des lunettes pour que votre champ de vision augmente. C'est mon champ de vision diminue, je ne vois plus. Donc, j'ai une expérience particulière de ma capacité de voir. C'est la même chose, je prends la vision parce que c'est là où c'est le plus net. Hein. Mais pour l'audition, c'est la même chose. La capacité d'entendre, puis ça diminue. Il y a beaucoup de secrets autour de moi que je n'entends pas. Que je n'entends plus. D'une certaine manière, c'est très bien, le silence se fait. Alors qu'il y a des quantités de choses qui sont gênantes, parce que j'ai du bruit. Capacité de toucher, et puis toucher, en acte, je touche. Cette expérience-là, je l'ai fait pour mes sens. Je l'ai fait aussi pour le mouvement. Je suis capable de bouger. Il y a un moment où ça devient très difficile. Je ne peux plus me lever. Cette expérience est très douloureuse. Quelqu'un dit, tiens, je ne peux plus me lever. Qu'est-ce qu'il y a ? Et puis, je peux me lever. Mais je ne peux plus me lever. Ça veut dire que j'avais la capacité de me lever, puis qu'il y a un obstacle. Un obstacle. Quand il vient de l'extérieur, ça ne me gêne pas beaucoup. Mais quand il vient de l'intérieur, hein, qu'est-ce qu'il y a ? Quelque chose qui ne marche plus. Je suis malade. Le vivant, c'est celui qui se meut. Et je fais cette expérience que, à un moment donné, je me suis levé, j'ai marché. Quand on voit des gosses qui marchent à quatre pattes, hein, quand je le dis, hein, qui courent, hein, puis tout d'un coup, on ne sait pourquoi, ils font des efforts pour se lever. Et maintenant, très souvent, on laisse découvrir ça. Il met du temps. Avant, comme c'est. Allez, marche. Non, faut plus dire ça, faut attendre qu'il marche, attendre qu'il s'actue. Mais il peut marcher, et il marche. À la fin du cours, vous vous levez, c'est instinctif, hein. Faites pas d'effort, mais si jamais un jour vous avez très mal et vous ne pouvez pas vous lever, qu'est-ce qu'il y a? On a une expérience de deux états différents, être assis, on se repose, puis être debout. C'est plus facile de dormir quand on est assis. Dormir quand on est debout, plus difficile. Mais si on est très fatigué, on arrive à dormir, même debout. C'est des expériences. Dans mon état, je suis comme ça, c'est réel. Quand on dirait que c'est faux, mais non, c'est réel ça. Je sens en moi ces deux états particuliers. La même chose, d'une façon différente, pour l'intelligence. Ah. Le progrès que je fais dans la compréhension. Au début, quand on assiste au cours, on comprend peu de choses. Un petit moment, quelquefois, quand on donne des exemples, oui, oui, là, ça va. Puis quand on dépasse les exemples, peut-être que c'est juste. Je comprends pas, ça fait rien. On l'a dit. Alors, on a l'autorité du maître. Le maître l'a dit. Aristote l'a dit. Vous savez, cette chose très jolie de Topfer. Il dit, on a des maîtres vivants et on a des maîtres morts. Aristote est un maître mort. Il reste un maître. Puis on a des maîtres vivants, les cours. Un maître vivant. Bon, on fait cette expérience et on voit que notre intelligence acquiert petit à petit une certaine manière de comprendre, un pli dans l'intelligence. Alors on appelle ça un habitus. Habitus, j'acquiers des habitus. J'acquiers ces déterminations. Mon intelligence n'est plus pure puissance. Elle est déterminée. Mais je peux passer l'exercice. Ah, je peux passer l'exercice. J'ai la capacité de comprendre, mais uniquement la capacité. J'ai la capacité de déterminer mon intelligence à découvrir l'existence de Dieu, puis je passe à l'acte. Je fais l'exercice. Chacun d'entre nous, comme ça, au point de vue mathématique, on a l'habitus mathématique. Et on passe comme on veut, quand on veut, à l'exercice. On a une richesse en soi, un capital. Je peux un capital pour cette richesse intellectuelle, où les intérêts sont différents. On a un capital. Puis je peux passer à l'exercice. On passe de l'habitus à l'exercice. Tiens, deux états différents. C'est du côté de l'exercice. Donc, passion et action. Et je passe passion et action qui sont des choses sensibles, je passe à une chose intellectuelle. Habitus, exercice de l'habitus. Et l'exercice de l'habitus, c'est quelque chose de purement intérieur. Je peux aller plus loin encore, une autre expérience. Tout ça, c'est des expériences diverses. Hein. Je dois faire toutes ces expériences diverses. j'ai fait de la philosophie. Je sais que j'ai un corps, la philosophie du vivant. J'ai un corps, causalité matérielle, et j'ai une âme. Mon corps est pour mon âme. C'est curieux. Mon corps, sans mon âme, n'est plus vivant. J'ai cette expérience-là, l'expérience de la mort. Il ne vit plus. C'est une expérience que je n'ai pas pour moi, pas encore, mais je l'ai pour les êtres que j'aime. J'ai assisté à leur mort. J'ai vu ce passage terrible, d'une certaine manière, il ne répond plus. Il n'est plus de ce monde. La seule chose qui reste, c'est son corps cadavérique, son cadavre, qui, comme dit Aristote, est humain. D'une façon équivoque, il n'est plus humain. Un corps humain se meut. Un corps humain vit. Un corps qui ne vit plus n'est plus humain. Mon corps sans mon âme n'est plus mon corps. C'est très curieux, ça. Et ça, j'en ai l'expérience, hein. J'en ai l'expérience, on a tous l'expérience de la mort. J'ai un ami. J'ai un père ou une mère, ou un grand-père, une grand-mère. Et cette expérience est très variable. Chez les vieillards, le coma, l'agonie dure longtemps souvent. On a l'impression que l'âme a de la peine à quitter le corps. Alors, ça devrait être si facile. Hein. Si on écoute Molière, on voit très bien que ça devrait être très facile. Le corps, on l'aime notre corps, on l'aime bien, mais c'est un compagnon qui est aussi assez gênant. À cause de lui, je suis fatigué. À cause de lui, je dois dormir. Je dois accepter tous les jours cette petite mort. C'est pour ça que quelquefois, c'est très difficile de s'endormir. Un enfant n'aime pas s'endormir. C'est très cru, instinctivement. Il n'aime pas ça. Les grandes personnes, il y a l'heure. Là, on doit se coucher. Oui, mais est-ce que vous avez dressé le sommeil de telle façon que vous dormez à telle heure? Est-ce que vous avez ce pouvoir-là, vous endormir quand vous voulez? Bien non. Je dors parce que je suis fatigué. Non, vous dormez parce que il est 11 heures. Alors à partir de là, je dois dormir. Et si vous dites ça trop fort, vous ne dormez jamais. C'est curieux. Le sommeil échappe quand on veut lui commander. Et le sommeil vient quand on ne lui commande pas. Il est très capricieux, le sommeil. C'est très curieux. Curieux. Deux états particuliers. Mon corps ordonné à mon âme. Mon corps sans mon âme, je ne sais pas ce qu'il est. J'en ai pas l'expérience. Et bien, je vois que chez mes amis qui sont morts, leur corps est livré aux fossoyeurs, des mains étrangères. Tant qu'il était dans la famille, c'était encore des amis qu'il veillait. Mais il vient des bons hommes, bien habillés, symboliques de la mort. Ils viennent vous prendre le corps de l'ami. Et on a envie de dire, ce mort ne vous appartient pas. Ce corps ne vous appartient pas. qu'on passe, parce qu'on est bien obligé de le laisser. Le corps est ordonné à l'âme. Allons encore plus loin. Je sais, tout ça c'est la philosophie du vivant. Dans la philosophie du vivant, je vois avec netteté ces deux états. Un état imparfait, un état parfait. Mon corps séparé de mon âme, c'est dans un état imparfait. Il n'est pas fait pour ça. Mon corps n'est pas fait pour être seul. Mon corps est fait pour être habité par l'âme. Et l'état parfait, c'est quand mon âme habite pleinement mon corps. Quand je commence à être un peu infirme, bon, je dis ça va pas, hein. Mon bras ne marche plus. Vous voyez, l'état de perfection, celui qui voit l'état d'imperfection, d'attente, c'est pas imparfait, c'est pas un défaut, il peut voir. Mais ce serait un défaut s'il ne pourrait plus voir. Si mon œil ne voyait plus, c'est un état d'imperfection. Il est fait pour voir. Et pour tous mes sens, c'est comme ça. Mais l'audition, je suis fait pour entendre. Il y a celui, quand je passe dans la philosophie du vivant, celui qui peut construire comme architecte et qui construit. C'est bien deux états différents. Il a la capacité de construire. Celui qui peut aimer et qui aime. Je suis donc, et je constate, que j'ai l'expérience d'un état imparfait, plus ou moins, et un état parfait. L'état parfait, c'est ou l'âme dans le corps, ou l'habitus qui s'exerce. C'est très curieux. L'âme dans le corps, c'est quelque chose de très précis, comme détermination. L'exercice de mes facultés, qui actue mes facultés, qui leur permet de s'exercer en état de perfection. Je suis donc en face de deux états, imparfait et parfait. Et si je regarde bien, ces deux états se retrouvent dans l'intelligence, se retrouvent dans la sensation, se retrouvent substantiellement entre le corps et l'âme, entre la matière et la forme. Il y a deux états différents. Puisque ces états-là se retrouvent à travers tous mes états de vie, ma vie spirituelle, ma vie sensible, ma vie végétative, et se retrouvent même dans le monde physique, matière et forme, à travers tous ces états, ça prouve que dans l'être même, il y a une distinction entre un état imparfait et un état parfait. Est-ce que ce n'est pas le signe, justement, que dans l'être, il y a une distinction entre l'être possible et l'être en acte. Vous voyez, la diversité même de ces états, parfaits et imparfaits, depuis mes activités volontaires jusqu'aux activités psychologiques, jusqu'aux activités fondamentales, qui ne sont plus mes activités, qui sont des états, je retrouve cette distinction entre quelque chose d'imparfait, fondamentalement imparfait, la matière, et quelque chose de parfait qui passe par la forme et qui passe par l'exercice. Il y a donc quelque chose de très radical au niveau de l'être. L'être se distingue en être potentiel, ou plus exactement, en être en acte et en être potentiel. Donc, vous voyez, induction synthétique et analogique. J'ai besoin de toutes ces expériences, de toute ma philosophie, antérieure au livre Theta, toute ma philosophie. Elle se distingue en deux aspects irréductibles, un aspect imparfait et un aspect parfait. Comme ça se distingue à travers tous ces degrés de vie, de réalité, je peux, à travers eux, saisir que dans l'être, il y a quelque chose qui est parfait acte. Je l'appelle acte. Il se donne à moi dans l'exercice. Et quelque chose de capable d'être actué, le possible. Vous voyez que là, je suis en présence d'une distinction fondamentale. Ce qui est en puissance est ordonné à l'acte. Toujours. Parce que l'acte désigne le parfait et la puissance l'imparfait. Je suis donc, et je peux affirmer, que tout ce qui est en puissance est ordonné à l'acte. Et l'acte, il est. La puissance dépend de l'acte, et l'acte ne dépend pas de la puissance. Il est. J'ai donc une connaissance de la finalité de l'être. La puissance est en vue de l'acte. L'état potentiel est en vue de l'acte, l'état imparfait. Tout ce qui est en puissance est donc ordonné à l'acte. L'acte, il est.